Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. L'Éthiopie annonce mettre fin à son litige frontalier avec l'Érythrée juste après avoir levé l'état d'urgence dans le pays. Au Niger, 9 morts dans un triple attentat suicide à Diffa. Au Mali, les opposants annoncent une nouvelle manifestation vendredi à Bamako. Au Sénégal, renvoi au 9 juillet du procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall.
Tous les arguments tourneront autour de ces décisions de condamnation. Donc en fait, par conséquent, on n'a pas besoin d'un délai de 3 ou de 4 ou de 5 mois ou de 6 mois.
Et en Jordanie, les manifestations contre l'austérité se poursuivent malgré la démission du Premier ministre. On parlera des sportifs les mieux payés dans la page sport, mais tout d'abord, le journal. Et à la une de l'actualité, l'Éthiopie annonce mettre fin à son litige frontalier avec l'Érythrée. La coalition au pouvoir écrit dans un communiqué ce soir que le gouvernement éthiopien a décidé de mettre en œuvre pleinement les conclusions d'une commission internationale indépendante qui, en 2002, avait délimité le tracé de la frontière commune avec l'Érythrée, source de vives tensions militaires entre les deux pays. Par ailleurs, le Parlement a levé l'état d'urgence instauré le 16 février pour 6 mois. Un nouveau signe d'apaisement du régime et de son nouveau Premier ministre, Ahmed. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
L'état d'urgence avait été décrété par le gouvernement au lendemain de la démission surprise le 15 février du Premier ministre Haïlé Mariam Dessalé. En avril, la coalition au pouvoir a investi un nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, issu de l'ethnie Oromo. Fin mai, il a fait libérer des centaines de prisonniers, dont l'anglo-éthiopien Adar Gachiou Tsegi, responsable du groupe d'opposition armée Jinbok 7. Il a aussi rétabli l'internet qui était toujours coupé en dehors de la capitale après avoir fait libérer 11 blogueurs et opposants. Le Premier ministre s'est ensuite rendu dans le sud du pays pour tenter de réconcilier les Somalis et les Oromo après des affrontements meurtriers en 2016. La fin de l'état d'urgence et les récentes libérations d'opposants ont été saluées par le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein. Le mouvement de protestation avait débuté fin 2015 en région Oromo, puis s'était étendu à d'autres régions, dont celle des Amara. La répression a fait au moins 940 morts, selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme.
Au Niger, triple attentat suicide hier soir à Diffa. Des kamikazes se sont fait exploser dans un vieux quartier de cette ville, dans le sud-est du pays. Le bilan provisoire fait état de 9 morts, dont les kamikazes et une quarantaine de blessés. Le point avec le correspondant de VOA Afrique, Abdulrazak Idrissa.
Selon plusieurs sources locales, les 3 explosions ont été entendues entre 21h30 et 22h temps universel dans le quartier d'Ifakura en périphérie de la ville. Ce fut d'abord un homme qui activa sa charge, suivi peu après d'une femme en voile qui a pris pour cible un groupe de jeunes assis devant leur maison. Quant à la 3e explosion, œuvre également d'une femme voilée, elle s'est produite près d'une école coranique où des jeunes talibés prenaient cours. Tous les 3 kamikazes sont décédés, avec eux 6 autres personnes parmi leurs cibles. Selon toujours les sources locales non officielles, une quarantaine de blessés est enregistrée, dont 20 dans des cas graves. Les autorités régionales de Diffa et même celles nationales n'ont pas encore communiqué sur cette autre attaque qui semble porter les marques de la secte Boko Haram. Depuis juin 2016, où 26 militaires nigériens ont été tués, les attaques de la secte Boko Haram ont baissé d'un cran dans la région de Diffa. Seules quelques brèves incursions ont été enregistrées, comme ce fut le cas en mars dernier à Toumour, où les éléments de la secte Boko Haram ont ciblé un marché, tuant 5 personnes et emportant beaucoup de vivres avec eux. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Et en Centrafrique, un casque bleu tanzanien a été tué, 7 autres blessés lorsque leur patrouille a été prise dans une embuscade. Le porte-parole de l'ONU a indiqué que les hommes armés qui appartiendraient à la milice Siriri ont attaqué la patrouille de l'ONU dimanche dans un village dans le sud-ouest de la préfecture de Mambéré-Kadey. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a vivement condamné l'attaque qui porte à 4 le nombre de casques bleus tués en Centrafrique cette année. En République démocratique du Congo, le porte-parole de la majorité présidentielle a dit que jusqu'à présent, il ne voit aucun acte de la majorité ou du président de la République qui donnerait à penser que cette déclaration solennelle du chef de l'État de respecter la Constitution et de ne pas être candidat est en passe d'être violée. Malgré tout, lundi, un collectif de 176 associations a proclamé un texte disant non à un troisième mandat et non à la modification. Des opposants ont aussi demandé au président Joseph Kabila de dire clairement qu'il ne sera pas candidat. Et le procès en appel de l'opposant sénégalais et maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné en mars à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics, a été reporté au 9 juillet. À l'issue d'une brève audience à 8 mois de l'élection présidentielle, on y reviendra dans nos dossiers du jour. Au Mali, préparation des présidentielles. Les nouvelles cartes d'électeurs biométriques sont arrivées à Bamako. Une plateforme de la majorité, lors d'une conférence de presse, demande à l'opposition d'inscrire ses actions dans des espaces républicains alors qu'elle s'apprête à descendre dans les rues ce vendredi. Kassim Traoré.
Les 66 formations politiques qui soutiennent la réélection du président Ibeka ont fait leur première sortie médiatique. Le but était de répondre à l'opposition malienne afin qu'elle reste dans la mouvance de l'organisation de la présidentielle de juillet prochain. Boukari Tereta, président de la plateforme Ensemble pour le Mali.
La loi électorale qui va organiser les prochaines élections a été fondamentalement relue à la demande de l'opposition. Et presque toutes les mesures nouvelles, toutes les dispositions nouvelles qui ont été introduites ont été proposées par l'opposition à partir donc du comité d'experts.
Boukari Tereta et ses hommes souhaitent que l'opposition reste républicaine en posant des actes dans les espaces appropriés.
Il faut vivement demander à notre opposition, elle se revendique opposition républicaine et démocratique, qu'elle rentre dans la République. La République est l'espace commun pour tous. La rue n'est pas pour la République. La République a des anciens organismes.
Lors de la cérémonie de réception des nouvelles cartes d'électeurs, l'opposition malienne a réitéré le maintien de sa marche du 8 juin 2018. Elle sera même synchronisée dans d'autres villes maliennes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Zimbabwe, des milliers de militants pour le changement démocratique sont dans les rues d'Harare pour demander à la commission électorale de veiller à ce que les élections du 30 juillet soient libres et équitables. Non à l'intimidation, pas de présence militaire dans les campagnes. Nous demandons un audit des listes électorales, pouvait-on lire sur des pancartes brandies par les manifestants. Au Mozambique, 7 personnes ont été tuées dans le village de Nodé et plusieurs dizaines de maisons ont été brûlées. L'attaque est attribuée à un groupe islamiste actif dans la région. Selon le porte-parole de la police mozambicaine, le groupe djihadiste pourrait être le même qui avait décapité des villageois le 27 mai dans la même région. Le groupe de musulmans radicaux connu sous le nom d'Al-Shabaab avait tué 10 personnes. En Tunisie, 7 nouveaux cadavres ont été repêchés par la marine, faisant passer à 55 le nombre de migrants noyés dimanche dans le naufrage de leur embarcation au large de Sfax. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur avait fait état précédemment de 52 cadavres repêchés, dont 36 Tunisiens et 12 étrangers, des migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Les autres n'ont pas été encore identifiés. En Égypte, l'ONU dénonce le problème chronique des détentions arbitraires. Le Haut Commissariat de l'ONU a mis en garde contre une nouvelle campagne d'arrestation et de détention de militants, blogueurs et journalistes dans le pays au cours des dernières semaines. Le gouvernement égyptien nie ces accusations et met en avant la lutte contre le terrorisme et la nécessité d'une stabilité politique dans le pays. Et pour finir, l'opposition malgache a décidé mardi de maintenir la pression en appelant à poursuivre les manifestations malgré la nomination la veille d'un nouveau Premier ministre dit de consensus.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et à l'international, en Jordanie, face à une contestation sociale qui ne faiblit pas depuis près d'une semaine, le roi Abdallah a appelé à une révision complète d'une réforme fiscale conseillée par le FMI. Et la grande sociale a déjà abouti à la démission du Premier ministre. On fait le point avec John Lyndon.
Le gouvernement doit lancer immédiatement un dialogue en coordination avec le Parlement et la participation des partis politiques, syndicats et organisations de la société civile pour finaliser le projet de loi sur l'impôt sur le revenu, a écrit le roi dans une lettre désignant le ministre de l'Éducation, Omar Al-Razaz, pour remplacer le chef de gouvernement démissionnaire, Annie Moulki. Cet appel intervient quelques heures après une mise en garde du souverain contre un saut dans l'inconnu si la Jordanie, lourdement affecté par l'accueil de centaines de milliers de réfugiés, échouait à résoudre la crise sociale qui a conduit à des manifestations inédites depuis le printemps arabe en 2011. Dans la nuit de lundi à mardi, et malgré la démission du Premier ministre, environ 2000 personnes sont de nouveau sorties à Amman pour réclamer le retrait d'un projet de loi augmentant l'impôt sur les modestes salaires pour certaines entreprises. Alliés des États-Unis, la Jordanie est l'un des rares pays arabes à avoir signé un accord de paix avec Israël.
Et le Premier ministre israélien est en tournée en Europe. Objectif, tenter de convaincre les Européens sur le dossier nucléaire iranien. Avant sa rencontre avec Emmanuel Macron, Benjamin Netanyahou a accusé l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien, de vouloir détruire l'État d'Israël. Les Européens tentent de sauver l'accord sur le nucléaire iranien dont Donald Trump est sorti le mois dernier. Le président français a mis en garde toutes les parties contre une escalade qui pourrait conduire au conflit après l'annonce par l'Iran d'une augmentation de sa capacité d'enrichissement d'uranium. Et voilà pour le journal. Restez à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Bagassi Koura.
L'État burkinabé compte injecter plus de 800 milliards de francs CFA dans un plan quinquennal pour renforcer la politique de la décentralisation engagée depuis 1991, annonce faite lundi par le Premier ministre Paul Kaba Tiba. Selon l'agence d'information du Burkina, l'État va financer ce plan à hauteur de 45% et les 55% seront assurés par les contributions des partenaires du pays. Le ministre nigérian du budget et de la planification nationale, Udoma Udo Udoma, a déclaré que l'économie du Nigeria a enregistré des entrées de capitaux évaluées à plus de 6 milliards de dollars au cours du premier trimestre de 2018. Selon le ministre, cet afflux de capitaux, qui est de 600% plus élevé que le milliard atteint au cours de la même période en 2017, est la preuve que les investisseurs ont de plus en plus confiance dans l'économie nigériane. Le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a reculé de 2,2% au premier trimestre 2018 en raison de la chute de la production agricole et minière. Selon l'Agence nationale des statistiques, il s'agit de la pire baisse du PIB depuis le premier trimestre 2009 quand l'économie s'était contractée de 6,1%, a ajouté l'agence dans un communiqué. Les mauvais résultats des secteurs agricoles, moins 24,2%, minier, moins 9,9% et industriel, moins 6,4%, expliquent ce ralentissement selon StatSA.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Nicolas Pinault.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Suite de la Coupe COSAFA en Afrique du Sud.
Pour les matchs de classement, ce mardi, l'Afrique du Sud face à la Namibie et le Swaziland face aux Lesotho. Madagascar affrontera la Zambie mercredi en demi-finale, tandis que l'autre affiche opposera le Zimbabwe au Botswana.
Et sanctions pour Buffon.
Oui, l'ex-gardien de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon, a écopé d'une suspension de 3 matchs pour son exclusion en quart de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Buffon avait été exclu pour protestation alors que la Juve menait 3-0 dans le temps additionnel et se dirigeait vers la prolongation. L'arbitre avait sifflé un pénalty en faveur du Real que Ronaldo avait transformé, ce qui avait permis la qualification du Real Madrid.
Et direction tennis avec le Roland-Garros.
L'Autrichien Dominic Thiem, numéro 8 mondial, s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros en battant le numéro 3 mondial Alexander Zverev en 3-7, 6-4, 6-2, 6-1. Chez les dames, l'américaine Madison Keys, 13e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour la première fois pour les demi-finales en dominant la Kazakh Lyulia Putintseva en 7-6, 6-4.
Et parlons d'argent dans le sport, un boxeur américain au sommet.
Floyd Mayweather est le sportif le mieux payé de la planète en 2018 avec, tenez-vous bien, des gains de 285 millions de dollars. Selon le classement publié par le magazine économique Forbes, Mayweather, 41 ans, a dépassé durant sa carrière le milliard de dollars de gains comme Michael Jordan ou encore Tiger Woods. On va noter que les stars du football, Lionel Messi avec 111 millions de dollars ou encore Cristiano Ronaldo, 108 millions de dollars, occupent les 2e et 3e places sur le podium. Le Brésilien Neymar est 5e avec 90 millions de dollars.
Merci Nicolas Pino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et reste à Girondin avec vous pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Au Sénégal, le procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, et ses co-accusés a été renvoyé au 9 juillet, ses avocats souhaitant plus de temps pour se préparer. Khalifa Sall avait écopé de 5 ans de prison pour une affaire de fausse facturation portant sur plusieurs milliards de francs CFA. Abdourahmane Dia a interrogé maître Baboukar Cissé, un des avocats de l'État sénégalais.
Non, c'est en fait le procès a été renvoyé au 9 juillet. Nous, en tant qu'avocats de l'État du Sénégal, nous n'étions pas d'accord. Parce que nous avons estimé que ce procès devait se dérouler aujourd'hui. Parce que le dossier, il est en état d'être jugé. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés à ce renvoi. Mais la Cour a estimé devoir renvoyer le dossier au 9 juillet. Sur la demande, je précise bien, des avocats de la défense.
Qui voulait plus de temps d'ailleurs, qui voulait que le procès soit renvoyé au mois de novembre.
Temps, on n'a pas besoin de plus de temps pour ça. Parce que c'est moi en fait, on n'est pas devant le tribunal, on est devant une cour d'appel. La cour d'appel, on défère devant la cour d'appel un jugement. Le jugement sur lequel la cour va statuer, c'est tous les arguments tourneront autour de ces décisions de condamnation. Donc en fait, par conséquent, on n'a pas besoin d'un délai de 3 ou de 4 ou de 5 mois ou de 6 mois pour vraiment préparer sa défense par rapport à un jugement qui est déjà entre vos mains.
Alors là, les avocats de la défense demandent que le verdict en première instance soit confirmé ou voulez une plus lourde sentence?
Non, les avocats de la défense veulent que le verdict qui a été rendu en première instance soit infirmé. Bon, maintenant, il appartiendra au parquet, au procureur général qui est aujourd'hui monté à l'audience, de soutenir l'action publique. Parce que l'État du Sénégal, ce qui l'intéresse, c'est l'action civile, c'est-à-dire les intérêts civils.
Mais est-ce que l'État a subi des préjudices dans cette affaire?
Mais évidemment, parce que si l'État n'avait pas subi de préjudices, l'État ne serait pas là aujourd'hui.
Et que répondez-vous aux accusations selon lesquelles il s'agit plutôt d'un procès politique visant à empêcher Khalifa Sall
de se présenter à
la présidentielle?
Ce qu'il faut retenir, c'est que Khalifa Sall ne pèse pas lourd sur l'échiquier politique.
Il a quand même gagné la ville de Dakar aux dernières élections.
Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, élection, gagner la ville de Dakar et gagner les élections présidentielles, c'est différent. Parce que le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Donc le Sénégal, c'est jusqu'au confins des villages les plus éloignés. Donc par conséquent, c'est pas parce que c'est le maire de la ville de Dakar que forcément, en fait, nous, on l'empêche, l'État veut l'empêcher d'être candidat. Il est poursuivi pour des faits de droit commun. C'est pas un procès politique. Il est poursuivi pour des faits de droit commun. D'escroquerie portant sur des deniers publics, de faux et d'usage de faux. Là, il ne les conteste pas. C'est des infractions.
Mais pourquoi ces partisans parlent de procès politique selon vous?
Ils sont libres de le dire. Ils sont libres de le dire. Mais Khalifa lui-même n'a jamais dit qu'il est candidat. Est-ce que vous l'avez une fois entendu dire que je suis candidat? Non, il n'a jamais déclaré. Jamais. Ce sont les gens, ces partisans qui le disent. Mais lui, il n'a jamais dit qu'il est candidat aux prochaines élections présidentielles.
C'était Maître Cissé, avocat de l'État sénégalais.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Congo, Brazzaville, la justice a condamné à 10 ans de prison l'ancien ministre d'État Jean-Martin Bemba pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Une condamnation par contumace car il se trouve en France, qui intervient après celle du général Norbert Dabira à 5 ans de prison et du général Jean-Marie Michel Mokoko à 20 ans de prison, également pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Morgane Guiriec a recueilli la réaction de Jean-Martin Bemba.
Nous sommes dans une affaire burlesque. Au début, on a dit qu'on avait des armes avec lesquelles on devait faire la déstabilisation des institutions. Et puis après, ils ont abandonné ce dossier. Maintenant, ils ont fabriqué un deuxième dossier pour dire qu'on voulait faire une sorte de printemps arabe.
Mais pourtant, la condamnation parle bien de complicité de détention illégale d'armes de guerre.
Oui, mais 5 années de procédure. Dès que ça a commencé, les avocats ont demandé au procureur général de présenter les CD. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu des armes dans l'affaire si vous ne présentez pas les CD. Il n'y a pas eu de CD. Donc on n'a même pas présenté une munition. C'est une confection comme ça, parce qu'en fait, ils pensaient pouvoir aller larguer des armes chez nous, mais nous étions tellement organisés, bien organisés partout, ils ont fait des perquisitions en espérant balancer quelques armes, ils n'ont pas pu le faire, du coup, pendant 5 ans, ils n'ont pas réussi à le faire. On se retrouve au cours d'un procès, il n'y a aucun scellé, aucun. Ni témoignage contre nous, ni scellé.
Donc ce que vous dites, c'est que le gouvernement n'a pas pu avancer de preuves concernant la détention d'armes de guerre.
Aucune preuve, aucune preuve.
Alors vous êtes en France, qu'allez-vous faire?
Avec les avocats, on va voir ce que j'ai de faire. Ceux qui sont là-bas, on va se battre pour eux. Le dossier avait été examiné par les Nations Unies. Hein. On avait convié le gouvernement congolais à se présenter à Genève. Ils ne sont pas allés, on leur a envoyé une copie du dossier, ils n'ont pas répondu. Le gouvernement n'a avancé aucun élément pour contester ce que nous avons pu produire à Genève.
Alors avant vous, il y a le général Mokoko et Dabira qui ont été condamnés, et maintenant c'est vous. Que se passe-t-il au Congo-Brazzaville?
Il s'agit de régler les comptes à ceux considérés comme gênants. Il n'y a pas une seule affaire qui tienne.
En quoi est-ce que vous, Jean-Martin Bemba, vous avez été dérangeant pour le pouvoir?
Ah, je ne sais pas, c'est à vous de dire. Hein. Moi, je fais mon boulot. Je sais bien qu'on a eu des débats sur le changement de constitution. Mes positions étaient claires et puis sur bien d'autres problèmes. Je crois que je n'ai pas le droit à me cacher. Quand je n'ai pas été d'accord, j'ai affirmé que je n'étais pas d'accord. Et puis, il y a plus de 120 détenus collectifs en ce moment.
C'est l'ancien ministre congolais d'État, Jean-Martin Bemba.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et nouveauté au Bénin dans le code pénal, l'interdiction du commerce illicite des produits pétroliers dans les circuits non officiels. Alors, qu'est-ce qui va changer avec cette interdiction? Réponse avec Raoul Oussounou, le directeur des publications du quotidien Nord-Sud à Cotonou, au micro de Irénée Herman Ongbo.
Qu'est-ce qui va changer? C'est que si le pouvoir décide d'appliquer réellement cette loi, on n'aura plus ces étalages de bidons au bord des voies qui jonchent les voies, les rues de Cotonou et les grandes agglomérations du Bénin. Donc on n'aura plus ça et tout le monde sera obligé d'aller vers les stations. C'est ce qui va changer.
Alors, mais la loi existait déjà. Qu'est-ce qui empêchait son application?
C'était pas réellement une loi, c'était un décret, donc une décision prise par un président de la République, un très vieux décret. Et son application, on l'avait appliquée. Vous avez constaté que sous le régime de Boni Yayi, que sous Kérékou, à la fin de Kérékou, il y a une répression contre ce commerce-là. Porte Nouveau en garde les séquelles avec des soulèvements un peu partout dans cette ville qui est quand même championne dans ce commerce. Soit au Bénin, ce qui manque le plus, c'est les stations. C'est maintenant qu'il y a une politique de mise en place des stations-service au Bénin. Au regard de cet état de choses, c'était un peu difficile d'appliquer les tests en matière de répression de commerce illicite de produits pétroliers.
Mais il y aura un impact énorme sur l'économie puisque beaucoup de personnes vivent de cette activité de vente de carburant frelaté. Et que vont-elles devenir à présent? Y a-t-il des dispositions de la loi dans ce sens?
Forcément, il y aura un impact sur l'économie parce que le commerce illicite de produits pétroliers, c'est la plus grosse économie du pays. Il n'y a pas cette rue au Bénin où on ne voit pas les étalages d'essence communément appelés paillons. Donc, c'est la plus grosse économie. Et la proximité avec le Nigeria, la parité CFA Naira aussi a facilité la chose et ça absorbe un grand nombre de chômeurs. Ça sort un grand nombre. Donc, tant bien que mal, on fermait les yeux sur ça parce que ça réglait aussi un problème social. Donc, qu'est-ce qu'ils vont devenir sur là? Moi, je ne pense pas que la loi votée hier, que le Il faut le dire, c'est pas spécifiquement voté pour le trafic illicite des produits pétroliers, c'est le code pénal qui a été toiletté. La loi votée hier n'a pas prévu de mesures pour ça. Au contraire, la loi a prévu des sanctions pour ceux qui continueraient à s'employer dans ce compte.
C'était Raoul Ossounou, directeur de publication du quotidien Nord-Sud Joint à Cotonou.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Joselle Morissin. À la console, Bill Barber. Raissa Gérondin à la présentation. On reste connectés sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme. Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ont officiellement transféré le 14 mai leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, capitale d'Israël. En déplaçant notre ambassade à Jérusalem, nous avons prouvé au monde, une fois de plus, que l'on peut faire confiance aux États-Unis, a déclaré le conseiller spécial du président Trump, Jared Kushner. Nous nous tenons aux côtés de nos amis et de nos alliés, et plus que tout, nous avons montré que les États-Unis d'Amérique font ce qui est juste, et nous l'avons fait, a-t-il ajouté. En prenant cette mesure, a dit M. Kushner, les États-Unis ont choisi de renforcer les liens entre les États-Unis et Israël. Ces liens ont été forgés à travers une histoire partagée, des intérêts partagés et immortalisés à travers des principes partagés. Les États-Unis soutiennent aux côtés d'Israël parce que les deux pays croient aux droits humains. Nous nous tenons ensemble parce que nous croyons que la démocratie mérite d'être défendue. Et les États-Unis soutiennent aux côtés d'Israël parce que nous pensons et savons que cela est juste, a déclaré M. Kushner. Israël prouve chaque jour la puissance illimitée de la liberté. Cette terre est la seule au Moyen-Orient où juifs, musulmans et chrétiens et des gens de toute confession religieuse peuvent vivre et prier conformément à leurs croyances, a dit M. Kushner. Les États-Unis demeurent engagés pour une paix durable et sont prêts à soutenir un accord de paix de toutes les manières qu'ils peuvent, a déclaré M. Kushner. Nous croyons qu'il est possible pour les deux camps d'obtenir plus qu'ils ne concèdent afin que tous les gens puissent vivre en paix, à l'abri du danger, libres de toute peur et à même de poursuivre leurs rêves. Les États-Unis reconnaissent que la question de Jérusalem est délicate et continuent d'appeler toutes les parties à maintenir le statu quo concernant les lieux saints de cette ville. Alors qu'Israël entame la 701e année de son existence, une nouvelle page est tournée dans la quête d'une paix durable, a déclaré M. Kouchner. Je pense que la paix est à portée de main si nous osons croire que l'avenir sera différent du passé, a dit M. Kouchner. Le chemin ne sera pas difficile, sera marqué par des moments et des décisions difficiles. Mais si nous avons des grands rêves, si nous menons avec courage, nous pouvons changer les trajectoires de millions de personnes, passant du désespoir à l'espoir sans limite.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.